En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Nous commençons par Athènes, monsieur, mais finalement par les Grecs. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas séparer l'histoire d'Athènes et la guerre athénienne de la guerre dans l'ensemble du monde grec, et je dirais même du pont entre la terre et la mer, entre la guerre sur terre et la thalassocratie, puisque finalement, on ne peut pas réellement séparer dans le monde grec antique la guerre sur mer. La spécificité existe, mais dans le cadre d'une guerre générale qui reste largement conçue sur terre, on ne peut donc pas séparer la guerre sur mer et la guerre sur terre. D'autre part, vous, en utilisant le terme anecdotique, collection d'anecdotes, vous avez presque introduit à ce de cas, presque introduit à ce qui va être aussi une partie de mon contenu, car la nature des sources que nous avons dans le monde grec ancien, qui est une nature forcément extrêmement anecdotique, nous amène à faire des présentations qui sont beaucoup plus, disons, des présentations de classement de sources que des présentations synthétiques comme celles dont nous avons eu le plaisir ce matin avec le monde du Tigre, de l'Euphrate, de Babylone, et justement un monde dans lequel Babylone n'était pas la cité la plus importante. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans le monde grec, c'est-à-dire dans un monde où la guerre est endémique, la défaite et la mort fait partie des risques de la vie, la victoire n'est jamais acquise, la fortune peut faire pencher inexplicablement la balance dans un sens. Et parmi les impondérables, les éléments ont joué un rôle certain. On ne se battait pas en réalité que par beau temps, et même si les conditions étaient idéales au moment où on commençait le combat, tout pouvait se retourner rapidement. La guerre a donc été conditionnée par la situation atmosphérique et le milieu naturel. Nos sources ne nous font connaître qu'une histoire événementielle et une histoire bataille, comme je le disais, d'autant que la culture de guerre empêchait de présenter la réalité du combat. Donc notre information, c'est toujours des points précis que nous essayons de mettre en relation les uns avec les autres. C'est donc plutôt une mise en série des données qui peut nous permettre de comprendre que, face à la nature, les Grecs ont dû se soumettre, s'adapter, mais que dans certains cas, ils ont pu la modifier. Partons bien entendu du milieu naturel grec. Il est fait de contrastes extrêmement violents et demande donc une adaptation constante de la part des acteurs de la guerre. Et la pratique grecque de la guerre a des exigences parfois contradictoires avec le milieu. Relevons les traits majeurs de ce milieu sur terre comme sur mer. Côté relief, hors une sismicité réelle, on a souvent souligné le compartimentage générateur de divisions politiques. Ce compartimentage détermine aussi la présence des escatia, ces zones montagneuses, ou en tout cas des zones de hautes collines recouvertes de broussailles, peu habitées, voire inhabitées, qui séparent les cités de Grèce du Sud et du Centre, en tout cas. Il faut aussi tenir compte de la prévalence du milieu montagnard, puisque 80% de la superficie grecque est constituée de montagnes ou de hautes collines. Conséquence en matière militaire. Eh bien, on ne peut, par voie de terre, éviter des lieux de passage obligés, Thermopyles, isthme de Corinthe ou autres, qui sont à la fois des lieux de barrage et des lieux de combat. On a au moins, dans l'histoire grecque, 5 batailles des Thermopyles, on a au moins 3 batailles de Mantinée, et cela uniquement à la période historique. Le relief inspire donc la stratégie, à la fois en multipliant les voies d'invasion, ce qui rend difficile de les surveiller toutes, et en rendant peu efficace ou extrêmement coûteuse en hommes et en fortification une stratégie uniquement défensive. Et le milieu montagnard s'impose à la conduite de la guerre à partir du moment où la guerre a cessé d'être saisonnière. En termes tactiques, la pratique de la bataille rangée et en phalange exige, pour que les deux armées puissent se déployer, des zones plates suffisamment grandes. Pour fixer les idées, la bataille de Chéronée, environ 30 000 hommes de chaque côté, ça exige un front au minimum de 2 km de terrain plat. La bataille de Platée exige 3 km environ. Et il est souhaitable que ce soit un terrain plat, libre de broussailles, libre de zones marécageuses, libre de zones fluviales. Et ainsi, la faible taille des zones entièrement plates a pour conséquence que l'ennemi y trouve sans mal des chemins de fuite. Parce que c'est bien beau de mener la bataille, encore faut-il poursuivre l'adversaire si on peut, ou essayer de l'anéantir, vu la nature. C'est extrêmement difficile de le faire dans le monde grec. Par conséquent, cette culture grecque, cette culture de guerre dans laquelle on se dit qu'on va se battre, on va déterminer par la victoire le vainqueur, et puis on ne détruit pas l'adversaire, elle est inscrite dans la nature, il ne pouvait pas faire autrement. Côté climat, contraste également énorme selon les lieux et les périodes de l'année. En fait, la sécheresse estivale, que tout le monde connaît, n'a de sens que pour le sud-est, 500 mm de pluie en Attique, mais plus de 1500 mm à Corfou. Certes, les fleuves ne sont pas entièrement pérennes au sud du Sperkeios, c'est-à-dire un fleuve qui sépare en gros la zone sud de la plaine de Thessalie de la zone de la Béotie. Oui, mais les difficultés de franchissement des fleuves sont quand même parfaitement attestées, même au sud de cette zone, à partir de septembre. Violence des pluies méditerranéennes qui peut empêcher la progression d'une troupe, qui rend facilement les collines infranchissables du fait des coulées de boue, qui fait grossir rapidement les fleuves et les torrents jusqu'à empêcher le passage des fleuves par une armée, jusqu'à rejeter au large des navires ancrés à leur embouchure. La sécheresse estivale n'empêche pas la présence d'eau stagnante, des lacs, des marécages, même dans le Péloponnèse. Conséquences sanitaires bien connues, des marécages, fièvre, dysenterie. L'hiver, les chutes de température sont fréquentes et fortement accrues par l'altitude. Gel, neige, brouillard sont très fréquemment signalés par nos sources, non seulement lors des sièges, mais aussi lors des opérations, toujours quand la guerre a cessé d'être saisonnière. Sur mer, le climat vient se compliquer de la présence des vents et des courants. L'été, la Méditerranée est dominée par un système anticyclonique, peut-être, mais l'hiver, le régime est dépressionnaire et irrégulier. Au centre de l'Égée, pendant la belle saison, soufflent les vents du nord ou les vents étésiens. Mais en hiver, la Méditerranée devient le centre d'une dépression barométrique. Et alors, le Notos, vent du sud, amène des trombles de pluie. Le Boré, ou vent du nord, amène des bourrasques de neige. Cette situation générale se complique dans le détail. Les vents sont détournés le long du tracé de la côte. Et les vents dominants sont parfois contrariés par des vents locaux. Venu de terre, le vent prend de travers un navire et lui fait quitter sa bonne route. Venu de mer, il le jette à la côte. Alors le navigateur peut intégrer, certes, l'aspect saisonnier, l'aspect habituel de ce régime des vents, mais les sautes de vent locaux, ça lui est extrêmement difficile, d'autant que la mer réagit extrêmement rapidement au vent. La Méditerranée est une mer fermée. Lorsque la houle est formée, la houle sera une houle à une très, très faible longueur d'onde. Si vous voulez, nous pouvons sur l'Atlantique avoir des creux de 15 mètres, mais comme ça. En Méditerranée, nous avons des creux de 10 ou 11 mètres, mais comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment même où la longueur des bateaux rend ceci vulnérable à la houle et le risque de talonner existe toujours. Ajoutons à cela les courants, je ne vais pas détailler tous les courants. Il y a à la fois des courants normaux, je pense au courant de décharge du Bosphore, je pense aux courants qui existent en mer Noire, les doubles courants, ou aux courants qui existent autour de Chypre, ça on les connaît, mais vous avez également tous les courants de Détroit et les inversions de courants. Dans le détroit de Lebey, vous avez des inversions de courant qui varient 5 à 7 fois pendant une partie de l'année et qui peuvent, de façon irrégulière, varier 12 fois, tout ceci en l'espace de 24 heures. Ce qui veut dire que la guerre sur mer est évidemment extrêmement marquée par cette situation. On insistera enfin sur le fait que dans le monde grec, milieu marin et milieu terrestre s'interpénètrent. Nul point n'est éloigné de plus de 100 km de la mer et les déplacements se font concurremment et complémentairement par les deux moyens. Les rameurs se transformaient en fantassins, les fantassins se transformaient en rameurs. Les opérations combinées terre-mer ont été très tôt pratiquées et on peut même de la mer participer à des batailles terrestres comme l'ont fait les Grecs face aux Galates en 276 selon Pausanias au niveau des Thermopyles. Et les navires stationnés devant les Thermopyles étaient remplis d'archers qui mitraillaient les Galates dans les Thermopyles. Mais au point de vue stratégique, le fait maritime, même pour Athènes, n'a jamais exclu la terre, bien au contraire. Alors on le voit, il fallait que la forme de guerre s'adapte au milieu. On pratiquait la bataille rangée, mais le milieu montagnard et l'interpénétration terre-mer sont plus propices à la petite guerre et à la razzia, y compris par débarquement, d'où un passage fréquent de cette petite guerre à la bataille rangée et de la bataille rangée à la petite guerre. Et en plus, l'imprévisibilité et la brutalité des phénomènes climatiques renforçaient les aléas de la guerre. Fortune de guerre ou fortune de mer pouvait donc être attribuée aux dieux, mais dans ces conditions, il fallait quand même soit se soumettre à la nature et accepter l'échec, soit l'utiliser et la contourner, soit tenter de la modifier. Alors, le problème, c'est déjà de savoir, puisque l'on est obligé de subir la nature, est-ce que c'est considéré comme une cause d'échec ou même comme un alibi à l'échec ? Nous sommes dans un monde dans lequel les chefs militaires sont élus par leurs citoyens, le concitoyen, c'est-à-dire élus, en fait, par leurs soldats. L'échec leur sera forcément compté, et on a pu calculer, par exemple, qu'à Athènes, il y avait plus de risques pour un stratège, pour un général, de mourir condamné à mort par les siens que de mourir sur le champ de bataille, j'allais dire au feu, mais évidemment, l'expression n'a pas de sens pour le monde grec. Ce qui veut dire que les phénomènes naturels peuvent avoir évidemment été invoqués comme prétexte. Je me suis posé la question, est-ce que si nos sources en parlent si souvent, et c'est très fréquent, c'est que c'était un prétexte ou non ? Mais je suis arrivé quand même à la conclusion que, comme nous avions des citoyens, comme les généraux étaient en quelque sorte obligés à la réussite, les citoyens savaient très bien ce qui s'était passé et on ne pouvait pas impunément dire c'est simplement en raison des éléments. En revanche, le recours au phénomène naturel comme cause de défaite par suite de malédiction divine, cela, on le trouve. Alors, chez Hérodote, il peut s'agir d'un tremblement de terre, celui qui a fait reculer la troupe athénienne venue à Égine enlevée de statues. Il peut s'agir de violentes pluies en plein été, suivies de tempêtes, ce que les Perses ont subi et ce qui a rétabli l'égalité entre les forces. Chez Hérodote, à peu près 40% des phénomènes naturels cités dans le cadre des opérations militaires sont nommément attribués aux dieux, que l'intervention divine ait été réelle ou non. Cette tendance disparaît par la suite. Il y a une sorte de rationalisation de l'histoire et en même temps un début de recherche rationnelle des causes de l'échec. Thucydide, 15 phénomènes naturels dans un contexte militaire, 8 sur terre, 7 sur mer. 5 ne sont pas des accidents météo, mais aucun n'est mis réellement en relation avec les causes divines, même s'il s'agit d'un tremblement de terre, suite d'Elos ou d'une éclipse, celle de Nicias. Xénophon, dans les Helléniques, c'est à peu près la même chose. 5 événements sur terre, 3 sur mer. Un seul peut être tenu pour un mauvais présage, mais le général a su déjouer, on peut dire, le piège de la religion. Polybe en connaît 19, 13 sur terre, 6 sur mer. Seule une éclipse est interprété par les soldats comme un présage néfaste. Les soldats, oui, mais pas le général. Chez Diodore, enfin, ce sont toujours des phénomènes atmosphériques ou des phénomènes dus à la nature. En tout, 53 cas chez Diodore. Il faut attendre Plutarque pour qu'on voit revenir l'explication divine. Mais cela, c'est tout à fait normal. Après tout, Plutarque n'est pas un historien, c'est un moraliste, et il était également prêtre à Delphes. Par conséquent, l'aspect religieux l'intéressait. Alors, est-ce que l'incidence de la nature sur le sort des combats était primordiale ? On peut essayer de l'apprécier statistiquement parmi les autres causes de l'échec, et j'ai essayé de le faire dans une autre étude qui était une étude globale statistique sur les causes de l'échec à partir de plus de 600 cas. Et les données chiffrées que vous percevez ici montrent justement que les causes météo, historien par historien, mais Théo, erreur tactique qui est liée à un phénomène naturel, mauvais terrain, mauvais choix du terrain dans les conditions naturelles, panique liée à un événement naturel non perçu, épidémie ou religion, vous vous rendez compte que les statistiques n'en font pas quelque chose d'absolument important et indispensable. Globalement, qu'il s'agisse donc des historiens, qu'il s'agisse de Plutarque ou qu'il s'agisse des stratagèmes de Polien, on a l'impression que le poids de la nature se situe entre 5 et 10% des cas, avec une fréquence plus grande dans le cas de la mer, ce qui, de toute façon, ne nous étonnera pas. Alors, le poids de la nature, si ça n'est pas la seule cause de l'échec, il intervient quand même dans les opérations militaires, et on peut le peser à la fois en termes de tactique et en termes de stratégie. En termes de tactique, c'est évident, nous avons une quantité considérable de cas que vous retrouverez dans la publication, mais que je ne vais pas tous vous citer, sinon je parlerai encore d'ici une heure et demie, et je pense que ça ne me serait pas permis, ça ne me serait pas accordé. Mais on se rend compte, en tout cas, que ces phénomènes naturels, ce sont sur Terre les pluies qui bloquent le passage, les eaux qui bloquent le passage, la chaleur et les vents qui déplacent des miasmes. Cela a pour conséquence, d'ailleurs, que toute progression, tout déplacement peut être gêné, voire même bloqué par les éléments. Surtout, ce sont les changements de temps dans lesquels nous avons des références importantes. Sur Terre, l'incidence de la météo est réelle lors des déplacements. Le brouillard, la pluie, aussi lors des combats, la décision de combattre est parfois liée à la météo, décision de combattre, mais ce qui d'ailleurs n'entraîne pas nécessairement la victoire, d'autant que dans une journée de combat qui ne se résume pas uniquement au choc des phalanges. Le choc des phalanges, ça n'est en fait qu'une toute petite partie du combat. Dans une journée de combat, le temps a la possibilité de changer assez souvent. De changer assez souvent, d'autant plus, d'ailleurs, qu'une partie importante des opérations militaires a lieu en septembre. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un monde du soldat citoyen. Par conséquent, le soldat citoyen, il faut auparavant qu'il ait fait la récolte, il faut auparavant qu'il ait fait les vendanges. Mais si on se bat en septembre, si on se bat en octobre, une bataille comme Platée est une bataille de fin septembre, une bataille comme Chéronée est une bataille, si on sait exactement la date de Chéronée, puisqu'on la déplace sur un mois, elle se situe soit en début septembre, soit en fin septembre, début octobre. C'est le moment où le climat du monde grec peut devenir un climat difficile. D'autre part, les opérations d'hiver, elles tendent à se généraliser à partir du moment où on a des expéditions qui ne sont plus des expéditions aux abords de son territoire, une guerre frontalière, mais à partir du moment où on a une guerre mondiale, entre guillemets, c'est-à-dire dans le cadre, bien entendu, du monde grec. Et à ce moment-là, nous retrouvons la neige, nous retrouvons le verglas. On a des cas, par exemple, où la neige et le verglas font tomber dans une expédition tous les ânes de l'expédition qui sont tellement chargés qu'ils dévalent entièrement une colline et qu'évidemment, comme on a affaire à un déplacement de quelqu'un qui contourne l'ennemi par les collines, tout le matériel porté par les ânes va à l'ennemi. La neige, la pluie, la foudre également, averses violentes et foudre qui détrempent le sol, qui créent des fondrières dans lesquelles se perdent les troupes en déplacement. Chute de pierre, on a également deux exemples de chute de pierre aux abords de Delphes. Les éléments donc peuvent jouer avant la bataille, ils peuvent jouer en aidant le chef militaire, comme ils peuvent jouer en rendant sa tâche beaucoup plus difficile. Et au moment de la bataille, eh bien, à la fois le temps change pendant la bataille, mais également les éléments n'aident pas finalement les hommes. Les éléments n'aident pas les hommes parce que si nous avons un temps trop chaud, on porte l'hoplite 20 kg de matériel, 20 kg de bronze. C'est quand même extrêmement lourd en pays de soif. Mais si il fait trop froid, le froid engourdit les hommes. On a un certain nombre de références sur le sujet. S'il pleut, alors je ne dirais pas que le bronze rouille, mais à partir du moment où on utilise à côté des hoplites, des archers, des frondeurs, des javelotiers, eh bien, la pluie détrempe les cordes des arcs, ou la pluie rend les tirs de frondeurs absolument inopérants. Lors d'un siège aussi, l'action des éléments a son importance, soit en dissimulant le déplacement d'un adversaire, soit en empêchant l'incendie par l'ennemi, par l'attaquant, des défenses de l'attaqué, soit l'inverse. Ajoutons le rôle du vent sur le champ de bataille qui vient décupler la force des 13 ennemis, ou alors qui vient créer de la poussière, à moins évidemment qu'on ne la crée. Sur mer, eh bien, là encore, on ne se bat pas en période de calme météo. Même sur des navires à rames, les déplacements sont soumis au vent et au courant. Il y a des lieux dangereux, le Cap Malais, le Cap Sépias, l'Hellespont, les détroits, les zones où les courants s'inversent. L'ignorance peut amener des désastres, et cette ignorance, elle est signalée dans un certain nombre de cas par nos textes. Désastres, parfois, qui ont eu une importance stratégique. Disons, je passe un tout petit peu à un fait qui correspond à la partie suivante. Pensez aux Perses, pensez aux navires perses qui, à partir de 1100 navires, nous dit Hérodote, qui se trouvent regroupés dans la Tosse, arrivent à moins de 300 lorsqu'ils se situent à Salamine et dans le cadre de cette bataille de Salamine. Il y a le problème de la mauvaise saison, mais là encore, on ne fait pas la guerre uniquement à la belle saison, on est parfois obligé de le faire à d'autres. Ce qui veut dire que dans un déplacement, bien, on a des cas, par exemple, de navires carthaginois allant de Carthage en Sicile et qui sont déroutés par le vent jusqu'en Cyrénaïque pour ensuite pouvoir arriver à destination avec évidemment les conséquences des retards. Perte de navire à cause de tempête. Quand on fait le relevé systématique, on a des dizaines et des dizaines de références en mer Égée, mais également au large de la Sicile, pratiquement dans toutes les régions où les Grecs ont fait la guerre. Et les exemples que vous verrez dans la publication ne sont que ceux qui ont été jugés dignes par les auteurs anciens d'être retenus, et j'ai quand même dans mon stock de références 250 à 300 références dues à ces difficultés naturelles. Ils interfèrent donc dans toute la manière de croiser d'une escale, ils interfèrent également au combat, dans la décision de livrer bataille, dans la mise en place des escadres, mais décision de livrer bataille, on la prend en un instant T, seulement 3 heures ou 4 heures après, la mer peut être totalement différente. Donc ça interfère avec le combat et de façon imprévisible. Bien souvent, il est rare qu'un chef militaire puisse le prévoir. Et puis la mer empêche très souvent d'exploiter utilement la victoire. Exploiter utilement la victoire, il y a deux façons pour les marins grecs d'exploiter la victoire. Il y en a une qui consiste à poursuivre l'adversaire et essayer de détruire au maximum ses bateaux. Il y en a une autre qui consiste à récupérer les coques des navires désemparés, car finalement, la guerre sur mer, c'est aussi, dès cette époque-là, une guerre de matériel. On verra tout à l'heure pourquoi. Je ne citerai qu'un seul exemple qui est bien connu, mais il y en a une infinité. Les îles Arginuses et la tempête qui empêche les généraux athéniens vainqueurs à la fois de poursuivre l'ennemi et même de récupérer les corps des morts ou de tous ceux qui essayent de se sauver, ce qui leur a été tellement reproché à Athènes qu'ils ont été condamnés à mort. Donc le poids de la mer, le poids du climat, le poids des éléments naturels sur mer comme sur terre est considérable en termes tactiques, il l'est aussi en termes stratégiques. Alors c'est vrai que la différenciation moderne entre tactique et stratégie, elle est difficile à trouver dans nos sources qui conceptualisent assez mal les choses. Mais il est évident que des événements exceptionnels peuvent entraîner l'annulation d'une expédition parce qu'on pense qu'un élément naturel fait que c'est de mauvais augure. Il est rare que les chefs militaires réussissent à l'éviter. Pensez à l'éclipse de lune de Nicias, mais des cas d'éclipse de ce type, il y en a à peu près une dizaine dans nos sources. On annule aussi à cause de tremblements de terre. On annule également à cause d'orages exceptionnels et de signes funestes. Et puis, en matière stratégique, vous avez aussi le rôle des épidémies, qui sont liées à un mauvais campement, par exemple, et qui peut amener à la catastrophe une expédition qui s'augure parfaitement. L'une des meilleures expéditions faites par les Carthaginois contre Syracuse, où ils avaient bénéficié dès le début des éléments à la fois en matière maritime et en matière terrestre, arrive à la catastrophe inexplicablement, mais parce qu'ils avaient été amenés à camper dans un endroit malarieux et au bout d'un mois de siège, ils sont obligés de rembarquer en ayant perdu les deux tiers de leurs effectifs. Ce qui veut dire que les décideurs sont obligés, à partir du moment où la guerre a cessé d'être saisonnière, de se soumettre à des contraintes naturelles. Quelques-unes de ces contraintes naturelles, les îles Échinades et les îles Oneyadaï, sont inaccessibles à la mauvaise saison en raison des divagations de l'Achéloos. Il faut donc y aller, inaccessibles à la belle saison. Il faut donc y aller l'hiver, ce qui pourtant est anormal. Mener campagne d'hiver à cause des éléments, ça peut se produire. Plus loin, à l'époque d'une expédition d'Iphicrate en Égypte, nous apprenons qu'au moment où se lèvent les vents étésiens et où débute la crue du Nil, l'Égypte devient inaccessible. Les Perses adverses à Iphicrate ont dû faire demi-tour et notre Grec a eu la victoire pour des raisons qui n'étaient absolument pas militaires. Par temps hivernal, on sait que les sièges sont beaucoup plus difficiles, on sait que les soldats sont moins courageux. Donc, en matière stratégique, l'influence du milieu, c'est l'influence des contraintes naturelles, c'est aussi l'influence sur les pertes. Il y a des cas d'armées presque anéanties dans les zones désertiques ou semi-désertiques, et parfois les Grecs y sont allés simplement par le vent et par le sable. Sur mer, il y a les pertes de navires, bien entendu, et ces pertes de navires, on les a eues jusqu'à la période hellénistique, jusqu'au moment où le gigantisme des navires a permis aux bateaux de naviguer beaucoup plus, aux bateaux de guerre, de naviguer beaucoup plus en pleine mer. La Trière, c'est un bateau qui est un bateau de côte. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est un bateau à fond plat, un bateau très long, très haut à cause des trois rangs de rameurs. Il se retourne très facilement et d'autre part, comme vous avez presque 200 rameurs, multipliez le nombre de rameurs par le nombre de litres d'eau nécessaire, à peu près 8 litres d'eau par homme et par jour, si on en croit la comparaison avec les galériens de bonne époque, on ne peut pas s'écarter énormément de la terre. Alors l'incidence, c'est évidemment qu'il y a peu de pertes, puisque les hommes savent nager. On perd les bâtiments, on ne perd pas les hommes à cette période-là. Mais l'autre incidence, c'est que s'il y a un endroit où la mer peut être difficile, c'est pas la pleine mer. Les lieux du naufrage, c'est pas la pleine mer. L'endroit dangereux pour un navire, c'est la terre, c'est pas la mer. Quand on est en tempête en pleine mer, eh bien, on n'a qu'à fuir au vent et il y a un moment où la tempête se calme. Quand on mène campagne à côté de la côte, eh bien, on est immédiatement drossé au rivage. Les éléments ont des conséquences sur la durée des opérations, enfin, avec les retards qui peuvent être pris par des opérations, des retards qui parfois mettent en cause le succès même de la campagne. Alors certes, les auteurs mentionneront cela, mais ils mentionneront beaucoup moins, à l'inverse, les cas où l'on a bénéficié du retard chez les adversaires ou les cas où un retard s'est avéré bénéfique. Mais en tout cas, tous les cas de renfort qui n'arrivent pas, soit faute de vent, soit en raison de la tempête, ils sont fréquents. Pour terminer avec cet aspect stratégique, eh bien, un petit cas qui montre quand même que rien n'est toujours écrit, c'est la tempête qui oblige les Athéniens de Démosthène, le stratège Démosthène, qui était en semi-disgrâce alors, à mouiller à Pylos, conformément à ses instructions. Mais profitant de son inaction forcée, il fortifie l'endroit. Les Spartiates tentent de l'en déloger. Il se retrouve bloqué dans l'île de Sphactérie. C'est-à-dire que le hasard a amené à un succès qui était non seulement tactique de la part des Athéniens, mais en bloquant les Spartiates, les a obligés à négocier. Et nous avons là l'explication, l'une des grandes explications de la paix de Nicias. Bon. Alors, puisque on est soumis sur terre comme sur mer et autant à la nature, est-ce qu'on peut l'utiliser, la contourner ou la modifier? Alors, déjà, il faut savoir que c'est difficultés que le milieu naturel vous fait subir sont connues des stratèges et les textes anciens, même les textes qui sont des textes, disons, techniques, par conséquent, des textes dans lesquels les Grecs ont essayé de conceptualiser ces accidents naturels, perçoivent parfaitement l'incidence du milieu. Aîné le tacticien, dès le IVe siècle, évoque le rôle des accidents naturels et des cours d'eau dans la répartition des troupes et dans la gestion des effectifs. Polybe, qui en réalité avait écrit un traité de tactique et certains des éléments de ce traité de tactique se trouvent dans son œuvre principale, estime qu'un bon général doit avoir à la fois une bonne connaissance de la nature des lieux où il mène campagne, des connaissances générales et précises en astronomie, en cosmologie et même en météo, et que l'expérience doit être renforcée par des études théoriques, car, et je le cite, il y a bien des accidents qu'on ne saurait prévoir avec exactitude, tels qu'averse, fleuve qui déborde, gelée à Pierrefonte, chute de neige, nuée, brouillard et autres intempéries. Si donc nous ne prêtons attention même à ce qui est prévisible, comment ne pas nous attendre à voir nos entreprises échouer par notre faute dans la plupart des cas? Adaptation au temps, on le voit, elle est réclamée par Onosander au 1er siècle. Connaissance d'astronomie par un général, c'est réclamé aussi. Et finalement, Végès, qui est peut-être un auteur latin, mais qui est un petit peu la quintessence de tout ce que l'art de la guerre des anciens avait pu rassembler, il insiste sur la nécessité de savoir nager, pas seulement pour les marins d'ailleurs, afin de se prémunir contre l'effet des fortes pluies, sur l'importance de l'exercice par tous les temps. Il préconise pour le chef la connaissance des reliefs et de leurs conditions d'humidité ou de sécheresse, l'adaptation aux conditions naturelles en privilégiant les déplacements au petit matin en saison chaude ou en rejetant ceux opérés de nuit en saison hivernale, en déplaçant le camp suffisamment souvent l'été ou l'automne pour éviter la corruption des eaux et les miasmes qui s'ensuivent, en choisissant soigneusement son emplacement par rapport aux eaux et à la végétation. Il est donc évident que sur Terre, l'adaptation au milieu est devenue progressivement une des clés de la guerre. On la relève en matière de défense passive. C'est le cas pour l'établissement des camps, c'est le cas aussi pour les murailles des villes, c'est le cas aussi pour les protections navales, quais portuaires, cales, loges ouvertes pour protéger les navires. Mais l'adaptation peut être également plus active. Le pont mobile pour le franchissement des fleuves est bien attesté. La prévision du temps fait aussi partie de la conduite de la guerre. Et il existe toute une météorologie antique qui va de la météorologie populaire, fondée sur la seule expérience des lieux, à une météorologie plus scientifique et conceptualisée. Alors on l'aperçoit évidemment très bien dans le domaine de la mer, où il existe des calendriers météorologiques ou parapegmes qui, mois par mois, en fonction soit des saisons, soit des vents principaux, soit des étoiles, donnent les événements météo ou les autres événements naturels qui risquent de se reproduire. Il suffit de lire Aratos, les phénomènes, ou alors il suffit de lire Géminos, l'introduction aux phénomènes. Je ne vous donnerai pas de détails, là encore, la liste serait un peu trop anecdotique. Par conséquent, utiliser la nature, le chef militaire peut y parvenir à condition d'avoir ses connaissances. Alors, est-ce qu'un Grec peut utiliser la nature ? Se pose évidemment cette question dans un peuple qui est un peuple qui est sensible aux présages et essentiellement aux mauvais présages. Mais la métisse des Grecs, cette manière qu'ils avaient de ruser avec leur propre Dieu, leur a permis de ruser avec l'impression néfaste créée par les phénomènes naturels. Un bon général sait transformer un mauvais présage en présage favorable. C'est transformer une chute, par exemple, qui peut être un mauvais présage, en c'est un moyen d'être en contact avec la Terre. Par conséquent, tout signe météo deviendra, s'il sait y faire, un très très bon présage. On peut ainsi ne pas tenir compte des éclipses de soleil ou ne pas tenir compte des coup de foudre. Dans d'autres cas, en campagne, les chefs militaires ont su utiliser ou contourner la nature. Sur terre, le blocage momentané des lieux de passage obligés est attesté par nos sources. C'est un moyen d'utiliser la nature. Des pierres, des arbres abattus, placés dans un défilé dont les hauts sont gardés, empêchent l'adversaire de passer. Frontin et Pollien, qui donnent des cas de stratagèmes, mais des cas de stratagèmes qui correspondent en fait à toutes les périodes de l'Antiquité, montrent que dans le choix du lieu du combat, eh bien, il faut mettre le vent dans son dos pour éviter que poussière, pluie ou fort soleil soient pris de face et faire en sorte que ce soit l'ennemi qui le prenne. Vous avez cet exemple. On peut susciter la poussière en ordonnant à ses soldats de piétiner le sol. On peut essayer d'incendier ses arsenaux ou ses navires à partir d'un vent favorable. On peut utiliser le vent la nuit qui poussera la fumée et qui poussera le feu en aveuglant ses adversaires. On peut attendre le brouillard quand on sait qu'il existe. Stratagème de Pollien, de Frontin, nous sommes au 1er siècle, au 2e siècle de notre ère, mais c'est la quintessence, disons, d'un art de la guerre qui se met en place dès la fin du 5e siècle ou le milieu du 4e siècle. On peut contourner les lieux, on peut contourner également le climat. Nous avons des cas où l'on marche sur la mer et on fait même amener des chevaux sur la mer, à condition, bien entendu, qu'elle soit gelée, c'est-à-dire que la manière dont Augereau réussit à mettre la main sur la flotte hollandaise n'est pas un fait uniquement d'époque contemporaine, mais c'est un fait qui s'est produit à plusieurs reprises dans l'histoire. On peut empoisonner les eaux de son adversaire, ce qui a été fait dans la première guerre sacrée à l'encontre des Syréens, en plaçant simplement de l'hélébore dans un fleuve, de façon à ce que ce fleuve, qui arrosait la ville des Syriens, ne leur donne qu'une eau mauvaise à boire. Jouer sur les eaux, on peut le faire aussi autrement. On peut le faire aussi autrement, en détournant les eaux, et la pratique est relativement bien attestée lors de sièges, surtout dans un monde dans lequel les fortifications étaient des fortifications avec une base, peut-être, de pierre, mais de toute façon établi avec la technique de l'amplecton, c'est-à-dire un parement de pierre, un amas de caillasses de terre, un deuxième parement de pierre, mais très rapidement, au bout d'une vingtaine de centimètres de hauteur au maximum, c'était des briques crues, des briques cuites au soleil, très épaisses peut-être, des briques d'un module totalement différent de notre module, mais le détournement d'un fleuve permettait de baigner les fondations de la muraille et d'amener à l'effondrement de cette muraille. Autre possibilité également de détourner un fleuve. Lorsque le fleuve passait par la ville, eh bien, on avait la possibilité ensuite d'utiliser l'ancien cours du fleuve pour pénétrer dans la ville. Le cours du fleuve avait ainsi créé une véritable porte qu'on ne pouvait soupçonner au départ. Donc on utilise les eaux de façon offensive, comme on peut d'ailleurs les utiliser de façon défensive. Connaissance et utilisation de la nature sur mer, c'est parfois la connaissance des vents. Alors il y a deux exemples, dont un exemple qui est bien connu, le fameux vent de Salamine, qui, au dire d'Hérodote, aurait été connu de Thémistocle, sachant que tel vent se lèverait à tel moment et viendrait entrechoquer les navires perses. L'inconvénient, c'est que ce vent de Salamine, il n'a plus jamais soufflé depuis, en tout cas, on ne l'a plus jamais revu, mais on a au moins un autre exemple qui, lui, paraît tout à fait vraisemblable, parce que on a pu constater par la suite ce type de vent. C'est un exemple de la guerre du Péloponnèse. C'est un exemple qui a permis aux Athéniens d'emporter la victoire alors qu'ils étaient en position assez mauvaise, alors que leurs adversaires péloponnésiens s'étaient mis en cercle éperon directement vers les navires athéniens. Face à cette tactique du cuclos, du cercle, ils ont pratiqué la tactique du périplus, c'est-à-dire tourner le plus rapidement possible autour de ces navires, mais très vite, de façon à ce qu'aucun de ces navires ne risque de s'élancer pour les éperonner, et attendre le vent, qui ne pouvait pas manquer d'arriver à cet endroit-là. Et le vent, nous sommes dans la zone de nos pactes, il est bien attesté, ce vent existe à la fin de la matinée, et il a entrechoqué les navires péloponnésiens. Leur ordre a été entièrement, entièrement chamboulé. Et par conséquent, les Athéniens n'ont plus eu qu'à les éperonner un à un. Donc il peut y avoir une connaissance qui permet de ruser avec la nature. Peut-on aller plus loin? Sont-ils allés plus loin? Et ont-ils essayé de modifier la nature? Modifier la nature, nous avons quelques cas, les Grecs faisaient attention, pour eux, modifier la nature, c'était une forme d'hybris, une forme de démesure. On se plaçait, pourrait-on dire, au niveau des dieux, et ça a été reproché aux Perses qui, par exemple, ont creusé un canal dans l'Athos, aux Perses qui établissaient des ponts de bateaux. Mais les Grecs eux-mêmes ne se sont pas privés de modifier la nature, à condition que ça puisse être théoriquement réversible. Alors théoriquement réversible, c'est le cas des murailles que l'on peut établir sur une distance assez importante et qui barre un lieu de passage obligé, la fameuse muraille du Péloponnèse qui avait été réalisée dès l'époque mycénienne, qui a été reprise par les Péloponnésiens au moment de la seconde guerre médique. C'est peut-être le Déma, qui est une longue muraille puisqu'elle fait près de 5 km qui barre en Attique l'une des principales vallées qui peut être une voie d'invasion terrestre de l'Attique. Il peut y avoir la possibilité d'établir un pont à demeure sur une zone dangereuse. Pendant près d'une décennie, les Grecs ont établi un pont entre Chalcis et le continent, donc un pont par-dessus le détroit de Lebée. Alors, si c'est réversible, ça n'apparaît pas comme une forme d'hybris. Autre cas qui montre aussi comment on peut utiliser la nature et la modifier partiellement, le diolkos, cette sorte de rail dans lequel on pouvait engager la quille d'un bateau et qui permettait à un bateau de passer d'un côté à l'autre de l'isthme de Corinthe, de passer d'un des ports de Corinthe à l'autre, puisque Corinthe avait deux ports. Nous avons aussi la possibilité, lors de sièges, de relier une île au continent et de la transformer en presqu'île. Ça a été fait à la fois par les Eubéens, ça a été fait par Alexandre, ça a été fait ultérieurement par les Romains. Alors, au terme de cette étude, je suis allé vite et j'ai un tout petit peu outrepassé mon temps, malheureusement. Il est clair que les Grecs ont quand même su percevoir et en partie conceptualiser le rôle de la nature dans la guerre. Cessant d'attribuer l'action des éléments au seul Dieu, ils se sont ouverts à la possibilité d'agir sur eux, tout comme au même moment, ils se convertissaient à l'idée que les maladies avaient des causes naturelles et non divines. Et cela, c'est ce grand développement du rationalisme grec qui correspond au milieu et à la fin du 5e siècle. Sans ce développement du rationalisme, la guerre du Péloponnèse n'aurait évidemment pas eu le cours qu'elle a eu, et on ne pourrait pas envisager que l'art du généralat, à partir de la fin du 5e siècle, soit apparu comme une science à part entière. Ainsi, l'utilisation des phénomènes naturels a été tenue pour légitime. Pouvait-on aller jusqu'à tenter de modifier la nature ? Les scrupules religieux allaient contre. La métisse permettait néanmoins de le tenter, à condition de rester dans certaines limites et de ne pas trop le faire savoir. Plus pragmatiques, les Romains suivis des chefs militaires d'époque médiévale et moderne sont allés plus loin, mais sans que, souvent, faute de moyens techniques, la réussite soit toujours au rendez-vous. Mais cette irruption du rationnel dans la guerre, je crois, est l'apport essentiel du monde grec à l'histoire de l'art militaire.
Merci. C'était en ce qui concerne le monde grec. Est-ce que, de manière générale, la guerre n'est pas rationalisante ? Parce qu'il y a deux camps. Il s'agit de gagner ou de ne pas perdre. Et par conséquent, il faut recourir aux moyens les plus efficaces. Et à partir du moment où vous avez le critère de l'efficacité, ça rationalise. Alors, peut-être pas au sens où on prend conscience et on le fait délibérément, si vous voulez, mais par une sorte de mécanisme d'exploration d'essais d'échecs, si vous voulez, ça rationalise. C'est plaidable à l'échelle de l'histoire humaine que la guerre est un principe de rationalisation.
C'est fort probable pour le monde grec à partir du moment où, un, la guerre cesse d'être frontalière, deux, elle cesse d'être saisonnière, et en même temps, trois, la guerre, disons, cesse dans sa pratique d'être liée à la culture de guerre. En réalité, les Grecs avaient une culture de guerre qui était héritée de la période archaïque. Cette culture de guerre, ils l'ont maintenue pratiquement jusqu'à la fin de la civilisation grecque. Mais la pratique de la guerre, elle, était contradictoire, parce que la pratique de la guerre, comme vous le dites, était parfaitement rationalisante. Et donc, elle a été rationalisée. Le problème, c'est que il fallait pas trop le faire savoir, de la même façon qu'on ne raconte jamais dans les sources grecques directement ce qui se passe dans une bataille, parce que normalement, on n'a pas à le savoir. Il y a ce qui se passe avant, il y a ce qui se passe après. La victoire, c'est la victoire de la cité, c'est pas la victoire du général, et peu importe comment il y arrive. Et surtout, si on raconte trop de choses, bien, les hommes voudront plus retourner au casse-pipe. Par conséquent, il ne faut pas décrire la guerre. Ça, c'est la culture de guerre. Et par conséquent, la tricherie, le stratagème, c'est scandaleux. Les armes qui sont ignobles, c'est scandaleux. La véritable guerre, c'est le choc des phalanges. Avant, ce n'est pas la bataille. Après, ce n'est pas la bataille. Et si les présages ne sont pas favorables, alors qu'on se bat depuis plusieurs heures, on ne fera pas intervenir les phalanges. Exemple, les Spartiates aplatés. Mais cela, c'est la culture de guerre. La réalité de la guerre, dans le monde grec, c'est pas tellement la bataille rangée. Il y en a très peu, parce que c'est trop risqué. On a un cas d'une bataille qui est pourtant bien célèbre, qui est la bataille de Leuctre, où les sources nous disent nommément que le vainqueur de Leuctre, Béotien, général Béotien, se décide au bout de 2 ans à une bataille rangée qu'il a soigneusement évitée auparavant, et il s'y décide parce qu'il a peur de retour chez lui, qu'on lui dise « Vous n'avez rien fait, vous avez perdu toutes les occasions possibles ». Donc ce n'est pas la bataille rangée, la réalité de la guerre, c'est la petite guerre. Par terre comme par mer, d'où cette interpénétration de la terre et de la mer et l'impossibilité de les séparer. C'est finalement ce que l'on a dans les ordres de mission d'un général, tel que Thucydide nous les a conservés, aller à tel endroit, faire telle chose, et pour le reste, faire le plus de mal possible à l'ennemi. Nous ne sommes pas dans la pratique de la bataille rangée, mais la bataille rangée, c'est noble, c'est valorisant pour la cité, comme plus tard, c'est valorisant pour le général, mais on ne mène pas une bataille rangée tous les jours, et la guerre, elle dure beaucoup plus longtemps que une ou deux journées tous les ans.
Alors, autre point qui n'apparaît peut-être pas de manière parfaitement explicite dans votre exposé, c'est la dimension précisément la politique, mais thalassocratique au sens non moins militaire, opérationnel, ni même instrumental, mais dans quelle mesure, enfin disons la Ligue de Délos, dominée par Athènes, est une domination qui est assise sur la maîtrise de la marine et de la mer, enfin, ou du moins maîtrise. une plus grande maîtrise.
C'est exact.
Est-ce que ça doit jouer tout de même?
Ça joue, mais très rapidement, les adversaires d'Athènes se sont mis à la mer, et la guerre du Péloponnèse s'est déroulée sur terre comme sur mer, et c'est même finalement à la suite d'une défaite maritime des Athéniens qu'ils ont perdu la guerre du Péloponnèse. Mais défaite maritime qui a eu quelles conséquences? Et c'est là que nous avons aussi un aspect de la stratégie maritime qui montre que ce n'est pas directement sur mer que les choses se gagnent, mais indirectement. Ça, c'est quelque chose que j'ai dit dans le texte, mais que je n'ai pas dit parce que je ne pouvais pas tout dire. Mais j'y ai fait un petit peu allusion avec les coques. Qu'est-ce que c'est qu'une défaite navale? Ce n'est pas des pertes d'hommes, c'est des pertes de bateaux. Et quand on connaît le coût de la guerre navale, pour fixer un petit peu les choses, le coût d'une trière, c'est à peu près un talent ou un petit peu plus d'un talent. Un talent, 6 000 drachmes, une drachme, salaire journalier d'un individu, donc gain d'un individu, normalement 300 drachmes. Une trière, c'est donc entre 6 et 9 000 drachmes. Mais si vous avez 200 rameurs, enfin, 170 exactement, plus les 30 autres hommes qui sont sur la trière. Si vous avez une solde d'une drachme par jour, bien, 2 mois de campagne, 3 mois de campagne, c'est le coût du bateau. C'est-à-dire que la guerre sur mer nécessite des investissements considérables, d'abord des investissements en amont, et ensuite des investissements pour pouvoir l'amener. Et que se passe-t-il lorsqu'on perd des navires et on en perd de façon considérable, et beaucoup plus en raison des éléments qu'on en perd sur le champ de bataille? Il y a un moment où on ne peut plus suivre. On est étranglé financièrement. La défaite des Athéniens, ce n'est pas une défaite stratégique sur mer. Leur stratégie de tout risquer sur la mer, d'abord, ça n'est pas vrai, ils ne l'ont jamais utilisé comme ça. Mais est-ce qu'elle pouvait marcher ou non? Après tout, on n'en sait rien. Ce que l'on sait, c'est qu'ils n'avaient pas les moyens financiers de la mener à bien à partir du moment où leurs objectifs n'étaient plus des objectifs limités, mais c'était des objectifs qui, géographiquement et stratégiquement, c'était beaucoup trop distendu. C'est pour ça qu'on récupérait au maximum les coques.
C'est intéressant, ça. La liaison mer-terre, oui.
En fait, je n'ai pas voulu le dire aussi parce que je ne voulais pas redire ce que j'avais dit à propos de Thucydide.
Oui, il faudra lire la collection complète.
Ce serait d'un très grand profit pour tout le monde.
Oui.
C'est d'ailleurs ce que nous en faisons.
Parce que le coût, c'est même important. Enfin, le nerf de la guerre, ça existe. Et tandis que tout de même, les Grecs actifs, enfin les cités actives, à l'époque historique en tout cas, faisaient la guerre sur terre et sur mer,
vous l'avez dit.
Donc étaient obligés de partager leurs ressources limitées entre ces deux types de guerres. Donc le développement de type anglais, par exemple, était beaucoup plus difficile à réaliser en Grèce, non, me semble-t-il,
oui,
c'est une des conclusions qu'on peut tirer de ce que vous avez dit.
Et aussi pour une autre raison, c'est que la guerre sur terre rapporte, la guerre sur mer coûte. La guerre sur terre rapporte le butin, on peut vivre en partie sur le pays, on ne risquera pas de vivre sur la mer, puisque le milieu marin est un milieu répulsif et on doit y emmener à la fois son eau et son sol. On ne peut pas labourer la mer.
Intéressant. Vous insistez dans votre texte écrit, enfin en le revoyant, sur tout de même, la conclusion, c'est que c'est une guerre sur terre, enfin, qui l'emporte, la guerre sur mer.
C'est la terre qui emporte la décision, soit la mer emporte la décision, mais de façon indirecte, financière.
Depuis hier, enfin, il y a plusieurs occasions, il est apparu que nous avions, lorsqu'on n'est pas spécialiste, qu'on n'a pas précisément étudié cette question, il y a des images qui traînent, héritées évidemment de différents enseignements, et là, c'est l'opposition Sparte, c'est sur terre, et Athènes, c'est sur mer. C'est un peu plus compliqué que ça.
L'opposition, elle a été créée aussi de toutes pièces par les Athéniens qui ont voulu faire des Spartiates des spécialistes de la guerre sur Terre, de façon à pouvoir utiliser l'argument « Vous voyez, eux, ce sont des spécialistes. Nous, nous sommes des amateurs et pourtant, nous faisons jeu égal avec les spécialistes. Et en plus, nous sommes meilleurs marins qu'eux. »
C'est intéressant. Bon, quelqu'un veut... Oui, allez-y, je vous en prie.
Oui, moi, je suis assez stimulé par votre exposé parce que dans l'histoire coréenne, au XVIe siècle, il y a les invasions japonaises et le développement de peut-être un des premiers cuirassés de l'histoire fait une guerre de guérilla dans un milieu qui s'apparente par le découpage de la côte, les îlots, à ce qu'on pourrait imaginer de très loin être la Grèce. Mais c'est un peu le même type de côte très découpée et d'îlots. Et donc moi ça m'ouvre des perspectives aussi. Je me posais la question simplement du coût, par exemple, d'un éperon. Avec le poids du bronze, etc.
C'est quand même de 100 à 130 kilos de bronze.
Ouais, c'est ça. Et donc, c'est d'une part une prouesse technique, puis c'est un coût, oui. et d'autre part, l'origine des bois des...
Les bois ne sont pas d'origine Grèce du Sud. Ils sont importés très largement de Thrace ou de Macédoine, ce qui pose d'ailleurs le problème stratégique. Comment peut-on faire la guerre à la Macédoine alors que c'est par la Macédoine qu'arrivent les bois nécessaires pour les navires correspondants ?